Titanie et de la poésie. Bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous recevons aujourd'hui Joël Montèche. Joël, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre ici dans les locaux de Radio Occitanie, aux 60 rue d'Assali à Toulouse, puisque tu viens d'Athènes.
Merci Christian, oui, en effet, je viens d'Athènes.
Alors, tu viens d'Athènes pour deux événements. Le premier, c'est l'événement qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la publication de l'anthologie de la poésie grecque
contemporaine,
voilà,
voilà,
qui va de 1975 à 2005. Mm-hmm. Et puis demain soir, à partir de 20h30, il y aura dans notre maison d'Occitanie, au stade d'Occitanie, au 11 rue Malcousinat à Toulouse, il y aura ce festival européen 50 poèmes pour la neige, où tu vas intervenir, puisque ce festival est placé sous l'égide, en exergue. Il y a, comme chaque année, un poète, et cette année, c'est un poète grec. Il s'agit de Constantin Cavafy, mm-hmm, le poète de cette année. Mm-hmm. Alors, demain soir, à partir de 20h30, nous l'avons annoncé la semaine dernière, il y aura cette manifestation où on va lire des textes de Cavafy, puisque c'est le poète de l'année, mais également, il y aura des lectures, tu vas, je pense, donner également des lectures de poètes grecs contemporains, en particulier de Démosthène Agraphiotis, voilà, dont tu vas nous parler dans quelques secondes. Et également, nous aurons les poètes français comme Claude Barrère, comme Jean-Michel Tartère, qui vient d'avoir le Grand Prix de poésie des Gourmets des Lettres 2016. Il y aura également les poètes occitans, en particulier Philippe Carbone, Joms Privat et Franck Bardou, qui vont nous rejoindre pour cet événement. Donc, et puis il y aura un entracte avec du vin chaud pour nous réchauffer. Voilà.
Du vin chaud occitan.
Vin chaud occitan. Voilà. Et ça se passe toujours à la maison de l'Occitanie. Alors, Joël Montèche. D'abord tu es toulousaine, il faut quand même préciser ça, et c'est toujours un plaisir de voir que les Toulousains parcourent le monde entier mais reviennent toujours avec émotion dans la ville de Toulouse.
Oui, c'est toi qui me donnes l'occasion, et notre Démosthène Agraphiotis, c'est toi qui me donnes l'occasion de renouer avec mes racines et de retrouver les plus grands poètes que j'ai connus dans ma jeunesse. Merci Christian.
Alors, tu as un petit peu fait, tu as beaucoup voyagé, tu es allée en Amérique latine comme enseignante.
Oui,
donc
oui,
de passion, d'abord l'enseignement du français, mm-hmm, et le théâtre.
Mm, en effet.
Et le théâtre. Donc tu as pu concilier les deux assez facilement, mm, dans une tournée qui t'a conduit en Amérique latine, en Russie.
Oui, Venezuela, 6 ans, avec l'arrivée de Chavez en 1998, ensuite la Russie, encore 6 ans, et maintenant la Grèce, quel bonheur.
Bon, donc quand même une vie qui, moi, me semble tout à fait exceptionnel quand même.
Là, merci Christian.
Chose,
j'ai eu la chance, et j'ai encore la chance, de travailler pour l'AEFE, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Je suis professeur d'éducation nationale détaché. Oui. Et voilà, c'est une très belle expérience de pouvoir découvrir le monde avec des centres différents. Et de voyager pour découvrir d'autres cultures en se décentrant comme ça, c'est une vraie quête.
Alors, est-ce que la Grèce, ça a été un choix? Quel est le...
Magnifique, c'est quand même un perso du théâtre. J'étais à Moscou et on m'a offert ce poste-là.
De la philosophie, de la démocratie, en réalité, de notre civilisation, on peut dire.
Mm-hmm,
Donc, c'est vraiment, tu as tenu vraiment à aller à Athènes.
Ah oui, j'ai tenu. J'étais à Moscou, moi, on proposait ce poste, et j'ai été très heureuse d'y aller. On m'a proposé un grand défi, puisqu'il fallait être à la fois professeur de théâtre de groupe d'adultes, tenir l'option théâtre en collaboration évidemment avec notre collègue, et puis à ce moment-là il y avait aussi le club théâtre des petits, Et donc, j'étais heureuse de renouer avec, de découvrir cette patrie-là et cette culture. Oui. Entre-temps, on a monté aussi, on a ouvert un appartement de théâtre qui s'appelle le Théâtre Dionysos et Apollon. Et avec notre équipe, que je veux remercier ici, on vient d'ouvrir une association d'artistes. On est 47 artistes, 200 membres adhérents. Et voilà, donc on a le bonheur de faire de la performance, par exemple, oui, poétique, sous la direction de Démosthène Agrafiotis. Ah, oui. Je vous en parlerai après.
On va en parler, oui. De Démosthène Agrafiotis. Alors, comment, toi qui arrives là d'Athènes, tu y étais il y a encore il y a quelques jours, comment est l'atmosphère là-bas? Parce que ça nous intéresse beaucoup, nous. Hein?
C'est une atmosphère très vive, hein. C'est un pays de création absolue, effervescente, hein. Et c'est, je pourrais peut-être parler, pour répondre, je pourrais citer l'article de notre Démosthène Agrafiotis sur la crise, et ça éclairerait tout. Alors je vais essayer de le trouver très vite. En gros, Démosthène Agrafiotis, qui est un poète performeur, hein, et qui a été l'auteur de plusieurs articles sur la crise, dit que le texte, le pays est en crise, mais qu'on a oublié la deuxième signification du mot crise. Alors je vais essayer de trouver ça rapidement. En gros, le mot crise, comme vous ne manquez pas de savoir, c'est l'état à un moment de questionnement pour un pays. Mais à l'origine, il y avait deux sens pour le mot crise. Il y avait aussi le temps de la question, c'est-à-dire que, et le mot grec ancien signifie les deux, le temps de la question, c'est-à-dire comment on re-questionne les relations humaines, la méthode pour y voir clair, quelle démarche on adopte pour sortir du premier sens de la crise. Et le pays est d'autant plus en crise qu'on a oublié le deuxième sens du mot. Voilà, donc le pays se cherche et c'est un très beau chantier, un très beau lieu. Les laboratoires peuvent se créer parce qu'on a quand même une marge de manœuvre. C'est un pays de liberté grâce à ça, justement. Donc voilà, si tu veux.
C'est une drôle d'histoire quand même, la Grèce, hein, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, ou même à partir de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord la résistance grecque, qui est quand même une résistance exceptionnelle.
C'est le pays.
Il n'y a pas eu de collaboration, par exemple, contrairement à la France.
Ah non, c'est le pays du nom, on fête le nom. Voilà, il y a la fête nationale, c'est la fête du nom.
C'est ça. Bon. Et après, il y a eu cette dictature terrible des colonels.
Oui.
Et à la fin de cette dictature, il y a eu d'abord les Anglais qui, à l'issue de la guerre, ont favorisé quand même ces régimes, hein, pour qu'il ne s'instaure pas un régime communiste en Grèce, qui a donné lieu aussi à tout un exode d'intellectuels et en particulier de poètes aussi qui sont partis de la Grèce, hein, parce qu'ils s'étaient très engagés dans le parti communiste. Et puis après, cette Grèce qui n'a jamais réellement connu de période industrielle, qui devient post-industrielle.
Effectivement, là, c'est là qu'il faut lire. Est-ce que je peux me permettre de lire un passage de la préface qui a été composée par Kostas Nasikas et Démosthène Agrafiotis pour rebondir sur ce que tu as dit. Alors, il faut expliquer que l'anthologie, ça signifie, ça vient de amphos, qui veut dire fleur. Donc, on va accueillir les poètes, on va accueillir les textes, mais on va aussi accueillir des idées. C'est ce que tu fais, des références historiques et culturelles. Alors, je vais lire un petit extrait pour rebondir sur ce que tu as dit. Le tout récent développement des sciences de l'homme, sociologie, anthropologie, ethnologie, psychanalyse, philosophie, psychologie, semble avoir privé la poésie grecque de discuteurs, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays. Elle se trouve de ce fait au premier plan de la résistance et du dire vrai face à l'envahissement des valeurs mercantiles, tout en poursuivant son travail introspectif et son regard existentiel sur le sujet et en expérimentant de nouvelles formes d'expression. Voilà.
Donc, voilà. Alors, il s'agit là de l'anthologie de la poésie grecque dont parlions tout à l'heure, qui est publiée à l'édition L'Harmattan, dans la collection Levée d'encre, de Kostas Nasikas et Démosthène Agrafiotis. C'est en bilingue, grec-français, et c'est traduit du grec par Kostas Nasikas et Hervé Boer.
Oui.
Voilà. Et ça coûte, je ne me souviens plus, ça coûte 35 euros.
Oui.
Voilà. Donc une très belle anthologie qui manquait, hein, justement. Et puis une anthologie bilingue, c'est quand même pas
traduite par les poètes eux-mêmes. Hein, je vais en parler, je vais parler de l'histoire de ce projet.
Et ça donne une idée, effectivement, ces anthologies donnent quand même une idée de la représentation de la poésie contemporaine. Hein, et où on voit que il y a quand même des similitudes très importantes, me semble-t-il, avec l'ensemble des poésies européennes, en particulier de la poésie française.
On sent une grande influence, l'influence de certains mouvements, effectivement. Oui. Est-ce que tu veux que je parle de la classification?
Alors, on va peut-être parler d'abord, si tu le veux bien, de Demosthène Graphiotis et de Kostas Nasikas.
Avec grand bonheur. Hein,
qui sont les deux créateurs donc de cette anthologie, les deux instigateurs de cette anthologie.
Je voudrais les remercier. Hein. Je voudrais te remercier, Demosthène. Je voudrais remercier Monsieur Kostas Nasikas et aussi toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer le dossier. Par exemple, Christine Marcelin, Michel Manganaris, Émond Garofalo, Marie-Hélène Stavrou, toi Christian et Patrick Tépé. Alors permettez-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse une introduction musicale ou je attaque tout de suite avec Kostas Nasikas?
On va juste présenter les deux et après on fera l'introduction musicale.
Alors voilà, Kostas Nasikas est un psychanalyste et peintre. Il est membre de l'Association psychanalytique de France. Il enseigne à l'Université de Lyon et il est responsable médical de la Maison des adolescents de la ville de Lyon. Il vient de rédiger son plus récent livre, c'est Exil de langue, publié chez PUF en 2011. Et il vient de le présenter samedi 18 février dernier à Athènes, puisqu'il a été traduit à la librairie Books and Crimes à Athènes.
D'accord.
Quant à notre Demosthène, c'est un poète, un plasticien et un performeur qui vit à Athènes. Il est présent partout sur la scène européenne et mondiale. Il est héritier de mouvements tels que le mouvement Fluxus et Dada. Donc c'est 100 ans de Dada. C'est un poète sémillant. Il est l'auteur de plusieurs livres, d'essais et d'articles sur les rapports entre art, science, technologie et modernité. Il fait des expositions de peinture, de photographie, il fait des performances, c'est un des grands maîtres de la performance. Il fait des expositions collectives en Grèce et à l'étranger, là il venait de Rome quand je l'ai vu la dernière fois. Et il a écrit de nombreux textes théoriques, en particulier des articles sur la crise, des articles sur la performance, donc des essais concernant la performativité dans l'art. Et il organise de nombreux projets artistiques centrés sur l'art de la performance et il nous forme aussi dans le cadre de l'association Théâtre Dionysos et Apollon. Voilà. Donc dans le cadre de ce projet, il s'est occupé, je parle du projet de l'anthologie de la poésie grecque, il s'est occupé de concevoir le projet, de coordonner les poètes. Il a sectionné les poèmes, il a fait l'édition. Et il a essayé de monter cette équipe-là, en fait. Voilà, c'est lui qui a fait le fil rouge.
C'est déjà énorme. Oui.
Et je voudrais aussi parler d'une poétesse. Demosthène, avant que je prenne l'avion, m'a appelé et il m'a demandé, et je le fais maintenant, de revoir l'ordre de la sélection et de rendre hommage à une grande poétesse grecque qui s'est éteinte la semaine dernière, qui s'appelait Natacha Hadjidaki. Je voudrais lui rendre hommage dans cette émission. Elle s'est suicidée la semaine dernière à l'âge de 70 ans. C'était l'une des plus illustres représentantes de la poésie grecque contemporaine, enfin illustre parmi dans ce milieu-là, parce qu'en fait elle était moins connue auprès du public général grec, mais très connue de ceux qui appréciaient vraiment la poésie. Elle avait fait des études de journalisme à Athènes et de littérature anglaise à Londres, donc on sent l'influence de Joyce. Elle avait participé à la rédaction de revues littéraires comme Prosopa, Sima et Revmata. Elle était productrice d'émissions à la radio grecque, auteure de nombreux recueils de poésie, de romans, et, excusez-moi de le répéter, elle s'est suicidée, et ça répond aussi à la question comment va la Grèce en ce moment. Si tu veux,
des textes de
je vais commencer, elle, hein, je vais commencer par elle et je finirai aussi par elle.
D'accord.
Serait bien si on faisait une pause musicale pour honorer sa mémoire. Voilà. Dans ce cas, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est
Natacha Hadjidaki. Voilà.
Donc, est-ce qu'on peut passer ça? Je chanterai d'ailleurs pendant ce temps. Tu peux? C'est le disque de. Ah. Bon, mais on met.
Oui. Mathausen.
Parfait. Mathausen, c'est Théodorakis. Théodorakis, parce que c'était la musique très. J'ai choisi le disque Matarosen de Theodorakis, Canis en Ixere Porcine Toso Ore. Il est difficile de dégager la beauté des camps de concentration. Alors on va rentrer de plein pied dans la poésie contemporaine en lisant un texte de Natacha Djilaki qui s'appelle Un peu avant l'arrivée du printemps. Dans l'anthologie, tu le trouveras, pages 113 et 115. Un peu avant l'arrivée du printemps. La trachéotomie de l'après-midi s'étend et s'entortille à l'effondrement de juin, au rythme d'une gangrène mécanique sur les couches de son carte qui me sèche l'intelligence, m'arrache de manière rythmique la possibilité de communier avec la matière. L'après-midi gît en lanière dans un climat de chambre de pansement sur les vitres des sociétés anonymes et des organismes à responsabilité limitée. Lanière, le crêpe mort replié par le vent, sur les portes de la vie en deuil, les stores descendus et les investisseurs fouetteurs de sentiments. Oh, les secouristes de mes amours, dans les élixirs des restaurations propres, se soumettent à un formateur des commandos, à un bourbon.
Donc c'était une journaliste, hein,
oui, vous a dit, hein. Oui, elle a fait des études de journalisme, elle a étudié la littérature anglaise, et elle a écrit avec cette influence
des,
de Joyce.
Des émissions de radio.
Oui. Hein, oui, c'est bien de le souligner.
Radio, oui. Oui, oui,
oui. Oui, un hommage à Radio Occitania. Est-ce que vous voulez que je vous parle du projet, de la conduite du projet, de l'histoire du projet, de l'anthologie?
De l'anthologie, oui, bien sûr. Oui.
On enchaîne sur ça alors. Voilà, l'anthologie s'appelle Anthologie de la poésie grecque contemporaine 1975-2005. C'est-à-dire qu'après la chute des colonels, et là je vais reprendre les notes que j'ai prises lorsque Démosthène et sa dame nous ont accueillis chez eux, et je leur ai demandé de bien vouloir m'aider, puisque je serai aujourd'hui leur porte-parole, à expliquer quelle était l'histoire de ce projet. Voilà, donc après la chute des colonels, il y a eu un changement qui s'est opéré dans la poésie grecque, hein, et on s'est demandé si les événements suivaient les rythmes politiques ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'attendait à une révolution culturelle ou politique. À ce moment-là, Démosthène était à Paris, dans les années 80. C'était l'époque où Ritsos était bien connu de ses collègues, hein, du Parti communiste, qui les traduisait, du temps où Aragon parlait de lui. Oui. C'était aussi le moment où on appréciait beaucoup Angelopoulos, hein, d'ailleurs j'ai amené des extraits de ses films. Et voilà, donc c'était le moment où on appréciait beaucoup de parler de politique, hein, et finalement la politique et la poésie se rejoignaient. Alors, qu'est-ce qu'allait devenir la poésie grecque après un tel changement politique ? Démosthène et Graphiotis étaient absents pendant une dizaine d'années, ils s'étaient formés dans le monde entier, aussi en France, à la performance, et il avait des difficultés à avoir une vue systématique au moment où il est rentré en Grèce. Alors, le groupe s'est demandé, qui commence à se former, s'est demandé comment travailler, et Démosthène a commencé à organiser des rencontres entre les poètes, hein, certains venus de France et certains de Grèce. Démosthène a fait la connaissance de Andrea Iacovella, c'était l'éditeur de la revue Rumeur Libre, et donc ils se sont associés pour organiser ces rencontres, et ils ont eu l'idée d'une anthologie qui serait pas classique, une anthologie vraiment différente. Alors ils ont organisé un séminaire interne pour la sélection des poètes et des œuvres, hein, je parlerai des critères de choix. Donc ils ont préféré une approche anthropologique et non une approche philologique. Donc à l'issue de ces rencontres, on est parvenu à un consensus collectif, et on a, la question de la traduction s'est posée. Au départ, le groupe voulait un traducteur différent pour chaque poète. Donc ils avaient le projet de monter un réseau de poètes, un réseau de traducteurs et un autre réseau qui serait celui des lecteurs, et de faire correspondre les réseaux, et de les croiser. Ils avaient eu aussi l'idée d'organiser des séminaires dans les universités françaises, qui avaient un département d'études néo-hellénistiques, de façon à établir un dialogue continu entre la poésie grecque et la poésie française. C'était un projet ambitieux. Et puis la question du financement s'est posée, et à laquelle on a répondu que par des initiatives personnelles, bien sûr. L'institution avait aussi besoin d'une secrétaire, et tout a été fait de façon artisanale. Donc voilà, l'expérience s'est accumulée, et à un moment est arrivé Kostas Nasikas et Monsieur Bauer, et ils se sont tous... Il faut expliquer que Monsieur Bauer s'est spécialisé dans la traduction bilingue, parce qu'au départ, c'est aussi un psychanalyste qui s'occupe de patients bilingues, et en particulier il s'est occupé de Paul Celan et du bilinguisme. Donc quand ils se sont rencontrés tous les trois, Hervé Bauer était prof de philosophie, il est prof de philosophie à Lyon, ils se sont appliqués, ils ont beaucoup réfléchi à une autre façon de traduire, et ils ont finalement décidé de traduire tous les textes ensemble. Donc c'est un vrai travail collectif. Le livre a été publié grâce à leur effort en 2012 chez l'Armatan, tu l'as dit, et ensuite il a été présenté à Athènes. Alors c'était au théâtre de résistance Imbros, hein, et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Démosthène grâce à Christine Marcelin. Imbros, c'est un théâtre occupé, très très amusant, un lieu occupé, parce que au départ c'est un théâtre un espace alternatif, un théâtre qui appartient maintenant au gouvernement grec et que les artistes n'ont pas voulu libérer. Donc il est occupé par les artistes et qui le gère de façon collective. Donc on a présenté, l'équipe de Démosthène a présenté le livre là-bas. Et nous, acteurs, nous l'avons lu. Au départ, l'idée n'était pas réellement bien accueillie par l'ensemble des poètes grecs, parce que ce lieu alternatif accueillait déjà des techniciens immigrés syriens. Et donc, on s'est demandé si c'était pas un peu trop novateur. Mais du fait de l'insistance de Démosthène et de son équipe, les poètes sont venus, et Alexandros Sissaris, Ioannis Patelis, Marina, Michael Mitras, et j'en oublie encore, pardon, ils étaient 10. Les poètes ont lu leur texte en grec et Démosthène s'est essayé avec quelques acteurs sous la direction de Christine Marcelin à la performance. Voilà. Donc pour le haut bilan, l'anthologie inaugure une nouvelle manière de travailler. C'est un travail artisanal réel, financé par les poètes eux-mêmes. Il y a quelque chose d'héroïque dans ce travail, parce que c'est un travail collectif de très longue haleine, et dans la préface, on parle même d'Odyssée. Le groupe n'a pas reçu d'aide du système universitaire ni institutionnel, et lorsque s'est posée la question des critères de sélection à la fois des poètes et des textes, ce qu'il y a de particulier dans cette anthologie, c'est que les poètes ont été choisis parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'ils avaient commencé à publier de façon systématique à partir des années 70, parce qu'ils avaient à leur actif 3-4 livres, donc on pouvait parler d'activité poétique continue, parce qu'ils donnaient une certaine perspective poétique, c'est-à-dire qui permettait chaque poète... pouvait permettre de donner une vue globale assez variée de son travail. Et Démosthène, lui, voulait joindre des artistes visuels, des musiciens, des spécialistes de la performance. Mais finalement, l'équipe est arrivée à un compromis. Voilà. Donc, je peux arrêter là en parlant de la classification, si vous voulez.
Donc, ça a pris quand même pas mal de temps.
Ça a pris pas mal de temps.
C'est vrai que quand j'ai regardé cette anthologie, c'est un gros livre, mm-hmm. Ce qui explique ce prix, il y a 350 pages. J'ai vu qu'il n'y avait pas il n'y a pas l'estampille Centre National du Livre, hein, c'est-à-dire que l'éditeur n'a pas eu d'aide.
Non. C'est ça ce qui fait la particularité de l'art là-bas, c'est que c'est l'initiative vient souvent de la personne. Voilà.
Alors il faut quand même, ça reste un événement assez important, cette anthologie, hein, puisque il n'existe pas d'anthologie sur cette période-là récente à ce niveau. C'est quand même un outil qui manquait.
Mm-hmm. Hein. Oui, voilà. Merci de le dire.
Et savoir aussi ce qu'est devenu la poésie grecque au moment où on parle, c'est quand même important, puisque la poésie et la Grèce sont quand même quelque chose, c'est un peu le baptême de la poésie aussi.
Oui, poïenne, ça veut dire créer, c'est un mot grec.
Voilà, c'est un mot grec. La poésie, c'est faire, c'est... Voilà. Donc, il faut saluer ces initiatives, surtout que, d'après ce que tu nous as bien expliqué, elles sont dues à la volonté des poètes eux-mêmes.
Oui, voilà. Et un travail collectif aussi.
Des poètes, oui.
Parce qu'on croit au collectif, dans l'équipe de Démosthène.
Plus que les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, dans la poésie, il y a deux choses. Il y a les pouvoirs publics qui subventionnent, mais on ne sait pas très bien pourquoi celui-là plutôt que tel autre, etc. Et puis, il y a cette volonté farouche quand même des poètes d'exister, qui fait que malgré tout, quand ils veulent exister, ils existent.
Mmh, enfin, voilà.
Alors on va continuer, si tu le veux bien, par nous allons écouter ces poètes. Qu'est-ce que tu vas nous lire là maintenant?
Alors j'ai tout un programme pour vous. Est-ce que vous voulez que je vous je tente de faire un classement? En fait, mon ordre ne rendra pas compte du classement, parce que j'ai fait un hommage directement à Natacha Radidaki.
Oui.
Donc
ce qu'il faut, c'est écouter la voix de la poésie.
Oui, oui, oui. Alors, d'accord.
Vas-y, tu as carte blanche.
Oui, j'ai carte blanche. Merci.
Tu nous dis quelle Quel poète, parce qu'il y en a beaucoup quand même.
Hein. Oui, je voudrais commencer par Démosthène Graphiotis.
Voilà, très bien.
Oui, parce que c'est évidemment mon maître. Hein, oui,
il y a
voilà.
34 poètes dans cette anthologie, c'est quand même énorme.
Alors, il faut expliquer que Démosthène Graphiotis a un nom particulier. Qui veut dire à la fois zone de résistance et puis aussi gribouilleur. Donc c'est zone de résistance absolue et gribouilleur. C'est-à-dire qu'il est, c'est lui, à mes yeux, le grand poète contemporain et moderne. Et donc je voudrais commencer par deux de ses textes qui s'appellent Formulation A' et Formulation C'. Tu vas les trouver page 17 et 19. Parce qu'ils sont quelque part aussi, ils constituent finalement aussi un hommage à Natacha Lisaki en parlant de l'ombre et de la lumière et du deuil.
On débute.
Formulation A'. On n'apaise pas la douleur en accrochant la vie à un sourire sans reflet. Formulation B'. Quand la lumière rend l'âme, chacun de ses sanglots devient étoile. Formulation C'. Ni lumière, ni obscurité. Seul le tourbillon de l'éphémère, jeu nonchalant du temps. Pour continuer, j'aimerais vous faire découvrir un texte de Giorgos Kronas qui s'appelle Le chant de la fin. Tu vas le trouver page 65. C'est encore mon hommage à Madame Ajidaki. Le chant de la fin. L'ouvreuse connaît toujours le chant de la fin. Au moment où sur l'écran défilent les lettres de la fin, elle ouvre grand les portes. L'histoire du film, les plus grandes scènes, les fantômes du passé, les vérités émouvantes, c'était. Les lumières de la rue maintenant montrent la nouvelle œuvre. En bas sur la place, dans les jardins déserts. Pour continuer, j'aimerais vous faire découvrir un Brûlage des hommes, tu vas trouver page 31, d'Anastasios Alexandridis. Alors, il y a deux textes d'Alexandridis, plus tard on lira Brûlage des femmes pour poursuivre cet hommage. Je vais commencer par Brûlage des hommes. C'est un texte très contemporain et très contemporain dans son réalisme. Brûlage des hommes. J'enterre les morts. Les vivants s'enterrent eux-mêmes. Anonymes et obscurs, sans la joie de toute chose, libres, accomplis, vacants, ils m'habitent. Mes mots leur donnent de l'espace. Leurs mots me donnent du temps. Libre, accompli, vivant, je tiens loin des mots innommables. Je l'enterre au fond de mon corps. Je vais poursuivre mon hommage à...
Le Brûlage des femmes.
Oui, le Brûlage des femmes arrive plus tard parce que je voulais poursuivre mon hommage au réalisme grec et à l'homme grec, au Andros. Avec un texte de Stratis Pascalis qui s'appelle Homme, page 269 de l'anthologie. C'est toujours sur un fond de deuil. Homme, avec l'air d'un gendre et le visage d'un vieux, sur le front, sur les joues, la terre cuite. Des lignes tirées à l'épée au lieu des plis, rides. Ils se sont posés autour sévères comme les murs cyclopéens. Face à une mort soudaine, un meurtre ou un mariage, La chambre s'est obscurcie. Les femmes se sont dispersées. Et un bébé par terre s'est mis à pleurer. J'aime beaucoup, pour poursuivre, le texte qui s'appelle « Mon père voulait construire une maison » de Yorgos Markopoulos. Il se trouve page 199. Et il me fait beaucoup penser au théâtre jeugénien que mon père a tenu toute sa vie. C'est mon père. Mon père voulait construire une maison. Mon père a donné sa vie pour construire une maison. Des après-midi, des jours fériés dans la petite cuisine, sans une douceur ni un tour au café. À sa mort, il a laissé un chemin broussailleux, une bâtisse sans fenêtres, sans crépi, des années. Les temps ont changé, comme on dit, bien des choses se sont passées. On s'est perdu de vue, mon frère et moi. On a fini par apprendre la mort du père. C'est pourquoi le soir, je te regarde si profondément dans les yeux. Si des fois, je pouvais trouver la modeste chaleur qui lui a manqué. Mais il y a aussi d'autres textes pour rendre hommage à Madame Ajizaki. Des hommages qui sont moins des hommages à la mort que des hommages aux hommes bien vivants. Et c'est là que je veux lire Volage des femmes. Donc on revient à page 31. Voir la femme grecque, toute sa passion. Brûlage des femmes. Mon hommage à Natacha Ajizaki. C'est encore un texte d'Anastasios Alexandridis. C'était une femme. C'était une passion. Quand je l'étendais, elle saignait. C'était une femme. C'était une passion. Quand je la ramassais, je m'écriais. C'était une femme. C'était un regard. Quand il se fermait, j'étais aveuglé. C'était une femme. C'était une grotte. Quand elle s'emplissait, elle s'ouvrait. C'était une femme, c'était une citerne. Quand elle se vidait, elle s'emplissait. C'était une femme, c'était une murène. Quand elle mordait, elle mourait. C'était une femme, c'était une pierre. Je l'ai quittée et elle m'a brisé les mains. C'était une femme, c'était le vide. C'était là sa nature. C'était là ma chance. C'était une femme, c'était vrai. C'était faux. Quand ils se sont unis, je suis né. C'était une femme, c'était vrai. C'était faux. Quand ils se sont désunis, je fus perdu. C'était une femme, elle était femme, c'est vrai. Là, c'est notre hommage à Madame Natidaki.
Alors, des poètes que tu viens de lire, j'ai remarqué, ils appartiennent à une même génération. C'est-à-dire, ça va de 45, 46, avec
oui.
Graviotis,
oui.
À 54. Hein.
Il faut que je réponde à ton voilà. Idée de génération voilà. par un des oui. Extraits, oui. Par un petit paragraphe.
Alors, ça, c'est important.
La génération, donc le paragraphe se trouve dans la préface. Hein. Préface rédigée par Kostas Nasikas et Demosthène Graviotis ensemble. Il parle justement, il répond à cette idée de génération, commentant « Comme héritier, tant de poètes grecs que d'étrangers, les poètes de cette anthologie ne se reconnaissent pas comme une génération. Le terme de génération de la contestation a été employé par des critiques littéraires, alors que les poètes eux-mêmes le contestent. Comme nous pouvons le voir dans les pages qui suivent, certains traits communs semblent marquer leur poésie et la démarquer. Là, il y a une tentative de description, je peux enchaîner sur ça d'ailleurs. Nous remarquons une grande sensibilité, virant facilement au noir du désespoir ou au cynisme. Nous voyons aussi des explorations de mondes morcelés à l'intérieur d'un sujet morcelé, introverti ou dans l'errance.
D'accord. C'est ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est tout simplement par tranche d'âge. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont la même... qui ont à peu près la même, le même âge, quoi, à 10 ans, 10, 15 ans.
Peut-être, voilà. Oui. Voilà. Et, oui, si on regarde, parce qu'il y a quelques. Oui. Pour chaque poète, il y a quelques lignes, effectivement. Oui.
C'est ce que j'ai regardé pour savoir s'il y avait quelque chose de. Par exemple, celui-là est né en 1944, etc. Mm-hmm, mm-hmm. 1948. Donc ce sont des poètes, je dirais de ma génération, parce que moi je suis né aussi en 1948, et je me demandais si il y avait une différence avec des poètes qui seraient nés beaucoup plus tard. Des poètes, par exemple, nés dans les années 80.
Je ne les connais pas.
Ou 90, mais qui ne font pas partie encore de cette anthologie. Mm-hmm. Donc il va falloir l'inventer.
Et ben on va l'inventer, oui. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient des poètes de la contestation. Voilà. Oui. Mais effectivement, il y a quand même un travail à faire pour dénoncer les conditions de vie et les conditions d'évolution de notre société.
Oui.
Donc j'imagine que oui, après tout, on dénoncera la transe, le retour de la transe dionysiaque dans les conditions de travail dans lesquelles on évolue, quoi. Peut-être que c'est ça. Et j'ai pas la chance de connaître les plus jeunes.
Oui. Pas encore. Je trouvais qu'il y avait, malgré tout ce que dit Démosthène, je trouvais qu'il y avait quand même une similitude de ton. Mmh. J'ai pensé que cette similitude de ton venait aussi du fait de la même expérience. Ils ont vécu, puisqu'ils sont nés quasiment dans les mêmes années, à quelque chose près, à 10 ans près. Oui. Ils ont eu la même expérience.
Oui, l'expérience après la dictature, l'expérience de la défaite de la gauche, et puis aussi les influences des différents courants, en particulier les courants surréalistes, mais pas seulement. Est-ce que tu veux que je te parle de la classification?
Non, d'accord. Je préférerais que tu continues à lire des textes.
Ah oui, avec grand bonheur.
Parce que c'est quand même, je trouve qu'il y a une voix qui est toujours quand même très très intéressante. Mm-hmm.
Alors je voudrais continuer avec un texte très féminin aussi, parce que j'ai revu, comme je disais, excusez-moi, l'ordre pour rendre hommage à Madame Azoulaki. Ça s'appelle « L'animal effrayé ». Les esquisses balbutiantes d'un animal pourchassé sur une grève nocturne, elles ne cachent ni ne témoignent de rien. Elles ne font que signaler nettement un aspect secret et difficultueux, et seul capable de faire apparaître le beau caché. Seul un animal effrayé conduit à la beauté, car aucune beauté n'est exempte de tristesse. C'est un texte de Christophoros Liontakis, poète grec qui s'est vivement intéressé lui aussi à la traduction de la poésie, mais cette fois-ci de la poésie française en Grèce.
Voilà. Quelle est la place des femmes?
Et justement, ce qu'on s'était dit avec Démosthène, c'est qu'on allait choisir, puisque je représentais, enfin par ma voix, ce groupe, on allait choisir surtout des poètes féminins. Et voilà, donc j'ai envie de lire un texte, un des textes les plus forts de ce groupement, si on peut dire. C'est un texte de Rena Agidaki, dite Marina, qui a été mis en musique par Theodorakis, qui s'appelle « Tas de sièges ». Alors je vais en lire qu'un extrait, parce qu'un poème très très long, vu qu'il a passé de nombreuses années en prison, il a fait un travail continu d'écriture. Il se trouve page 117. Un texte de Rena Agidaki, s'appelle, dite Marina, ça s'appelle État de siège. Alors on voit que l'expérience, le poème est dicté par l'expérience de la prison et du questionnement en prison. Comme l'enfant marqué par la première expérience de la solitude, le temps et la résistance finiront par me briser le cœur. Et j'aurai perdu à jamais le chemin, mon chemin, quand on me laissera sortir d'ici. J'irai partout te chercher, dans les paysages anéantis, dans les fragments de ce miroir-là, dans les regards gaspillés.
pour retrouver à nouveau ton visage, recherchant mon cœur. Et je ne parlerai que cette langue qui était jadis la nôtre, qui était la seule chose à nous qui nous était restée, parmi les ombres des couleurs mortes, des images mortes, quand nos nuits n'étaient que de simples épisodes de la grande nuit advenue il y a combien de temps. Comment mesurer le temps ici, ces intervalles lunaires, ces sauts astraux? Comment mesurer mon cheminement brisé, la trajectoire imprévisible de ton absence dans cet inexorable vaisseau spatial, au cœur de la ville qui fut jadis la mienne et qui maintenant est dominée par les chars d'assaut?
Alors là aussi, c'est une année 1946, donc ça recoupe toujours cette même génération de l'après-guerre. Hein. Et
qui a passé la guerre civile.
Oui.
Voilà,
donc c'est quelqu'un qui a été incarcéré à la prison d'Averhof. Et comme tu disais, c'est Mikis Theodorakis qui a utilisé la première partie du poème pour sa chanson légendaire avec le même titre.
Oui. Hein, oui.
Donc elle a travaillé, ça a été la traductrice Jean-Paul Sartre.
Oui. C'est bien que tu me donnes des précisions.
Comme rédactrice dans plusieurs maisons d'édition.
Oui.
Donc. Elle est parente avec.
Avec la première, non.
Oui, non, c'est une coïncidence de nom.
Et elle dit d'acquis, c'est un nom comme c'est Debre, puisque c'est aussi dans des compositeurs. Ouais. Je peux continuer avec un poème.
Oui.
Ah, un poème que. Donc je voulais faire quelque chose de plus léger et plus gai.
Ah.
Et j'ai choisi La Taverne de Jamaïque, pages 177 et 179, de Maria Laina. La Taverne de Jamaïque. Notre vie a quelque peu changé. Nous n'habitons plus la ville, mais sur le chemin qui mène à la mer. Pendant nos soirées, nous sommes préoccupés par la course de la lune, les battements d'ailes sur les collines et les chevaux qui descendent vers l'étang. Si tu décides finalement de venir, tu me tiendras compagnie la nuit. Maintenant que l'automne arrive et que les charnières grincent dans l'obscurité, tu apprendras à prier avec force et désespoir. Et cet étrange sentiment se combinera avec les dures lignes de la nature. Amène peu de vêtements et des livres. Ici, les mêmes choses durent, autrement. Et n'oublie pas les chaussures appropriées, car la marée est derrière la maison et l'hiver est plus beaucoup. Je te laisse maintenant. Fais attention. Et tu sais combien je t'aime. Je pense à toi sur le canapé à côté de la fenêtre, méditant sur le temps et le vieillissement des corps. Ici, tout cela n'est qu'imagination. Nous n'avons qu'une claire et forte éternité qui ne fatigue pas, mais parfois tu as mal aux yeux. Il faut que je ferme la fenêtre. Le temps s'est à nouveau levé. J'ai fait quelques erreurs, hein. C'est le vent, c'est un nouveau levé. Tu n'as pas corrigé, hein, c'est beaucoup.
Alors là aussi, elle est née en 1947, hein, donc même tranche d'âge, c'était, toujours. Hein. Et puis, je vois qu'elle a produit des émissions radiophoniques.
Oui.
Donc les poètes sont toujours très intéressés, je crois, par la radio,
hein,
ce qui me semble tout à fait normal.
Aussi,
le théâtre, bien sûr.
Hein, auteur de pièces de théâtre.
Oui. Productrice aussi.
Ouais. Ouais. Justement. Ouais. La suivante, Katerina Gogou, c'était à la fois une poète maudite et une actrice.
Ah,
et
non,
j'aime
écoutez,
bien, page 97 à 101, le texte qui s'appelle « Trois clics à gauche ». Katerina Gogou.
Alors, c'est une actrice qui est apparue sur les écrans, qui est une actrice dont célèbre. Elle a participé à de nombreux spectacles sur les scènes athéniennes et a joué dans plus de 50 films.
Elle est décédée en 93 ans. Mmh.
Trois clics à gauche. Oui, je te parle, Nikos. Personne n'est à l'abri. Pour sûr, il y aura des troubles. Regarde-moi, par exemple, il y a quelqu'un qui prétend être mon ami. Ça fait des années qu'il me court après, laissant conseils et salive, choisissant pour moi les hommes avec qui coucher, les films à voir. Je te dis, personne n'est à l'abri ces temps-ci, chacun se tâte. L'un accuse l'autre d'être un mouchard. Nous sommes tous des mouchards. Portant tous un noir de felco du velours côtelé, nous lisons LF Eros Cosmos en cachette pour se tenir au courant. Chacun voulant la nana de l'autre, nos cuisses sont enchevêtrées. Ce type derrière moi pense qu'il me connaît. Il a la tête rasée, à la Kojak, ça montrait à l'heure. Je suis sur le point d'avoir une crise. Il me manque la piqûre. Allez, continue. Je suis là qu'il me dit. Il me claque un sourire, pas une trace de gencive. Il dit qu'il est un Indien. Je vois bien qu'il n'a pas de plume. L'Américain qui tient le bar d'en face m'a sifflé. Mon mec m'attend au contour pour me liquider. Il paraît qu'il est un agent de Staline. Je ne mange pas de ce pain-là. Le grand type veut quelque chose de moi, tu vas voir. Après tout, je l'ai aimé, Nikos, ouais. Je suis habitué à Kojak, c'est mon type. Hein. Mon trip, comme disait les drogués. Il m'achète mes cigarettes, mes souvlakis. Il trouve mes poèmes superbes. Il me dit... Tu es en forme, poupée. Tu comprends, malgré tout, ça me donne confiance en moi. Non, je ne sortirai pas ce soir. Nikos ne m'appelle plus. Ce type, celui-là concrètement, avait une vie bien concrète, avec des actions bien concrètes. Voilà pourquoi cette société est concrète, pour une raison concrète, l'a condamnée. À une mort indéfinie. Les rues grandes ouvertes, les tavernes débordant de monde. Aujourd'hui, c'est le jour pour la morue à Yoli. Jumelles pendues au cou, petit drapeau taché, et le soleil qui tape, et la sauce à l'ail. Une mouche à merde dans l'œil du gosse après le défilé. Le 25 mars 1977.
Ça fait penser un peu à Bukowski, hein.
C'est vrai,
ouais. Voilà. Ce côté quand même très trivial.
Oui, hein, très trivial, très
trivialité,
très
provocant. Oui. On voit que il y a une forte personnalité sous-jacente quand même là, hein, chez cette dame là.
Puis plusieurs personnages, j'aime beaucoup. Oui. La théâtralité là. Tous ces hommes qui tournent autour d'elle, c'est très, très amusant, la composition des personnages. Ça manque pas d'humour, moi, j'aime beaucoup.
Oui, il y a beaucoup d'humour, oui.
Il y a quelques poètes qui manquent pas d'humour. Oui. Hein, on va en voir quelques-uns. Après, là, on va rentrer dans les choses les plus contemporaines. Et tu vas voir, la nature école maternelle, c'est...
Il reste 3 minutes.
Avant la fin de l'émission. Ah oui, bon, alors dans ce cas, je vais sauter.
Qu'est-ce que tu vas nous...
Je pourrais, puisqu'il reste 4 minutes, lire un autre texte de Monsieur Agrafiotis,
oui.
Et qui se prête bien à la performance, c'est Maribor, page 21-23. Donc, notre Démosthène Agrafiotis est un des maîtres de la performance, et donc je vais peut-être me laisser la possibilité, puisque Maribor. Le texte finit sur le mot performance, d'en faire une performance. Maribor. Il défile à la recherche d'une place tous les 5 ans. Même les étudiantes qui préfèrent les histoires familiales de l'ancienne grammaire, tellement insignifiant, tellement évident, avec la classification à l'inconnu, début et fin, début de la fin, fin du début, impasse visuelle abandonnée et perdue. Mais que voudrais-tu donc ? Quel pourcentage de la langue doit-on consacrer à la surface des choses, l'inertie des événements, l'entropie du monde, la plasticité des sons? Les mots glissent dans tous les vides.
nomos, cela, accomplissement ou performance. Djiboutien, hein, c'était tellement insignifiant, tellement évident.
Il faut nommer cela, donc, accomplissement, ouais. Performance.
Hein.
Donc, Demosthène Agraphiotis, poète performeur.
Poète performeur.
Poète performeur. Et nous aurons le
et
plaisir.
Hein, de la performance.
Et
oui, le 9
performance.
Mars, tu l'interviews.
Et nous aurons voilà, le plaisir, donc, de pouvoir faire une émission en direct avec Demosthène, donc, toujours pour Radio Occitanie. Occitanie, voilà, depuis Athènes.
Hein. Merci, Christian.
Voilà. Alors, donc, nous rappelons Anthologie de la poésie grecque 1975-2005 par Kostas Nassikas et Demosthène Agraphiotis en édition bilingue aux éditions L'Harmattan, collection poésie Levée d'encre.
Merci
voilà.
beaucoup.
Joël Montech, merci beaucoup.
Merci.
On n'a pas dit peut-être tout à l'heure que tu étais d'origine toulousaine,
mais
ton père, effectivement, tu en as parlé pour le théâtre. A tenu pendant très très longtemps le théâtre Jules Julien.
Oui, voilà, et l'association de théâtre voilà, réel.
L'association
merci
du
Christian,
théâtre,
l'apprécie beaucoup.
Et joue dans ce théâtre et j'avoue que ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette émission avec toi. Et demain, il faut aller voir donc Joël Montech qui va lire Constantin.
Radio Occitanie.